Philo. Une heure philo un peu raccourcie ce soir, en effet, à 20h45, nous laisserons la place aux victoires de la musique. Cela nous laisse le temps de trinquer. Henri-Marc Mutel à la réalisation, Chantal Le Montagny à la préparation, elle a déjà débouché un certain nombre de bouteilles, Djoubaka est allé nous dégoter un vieil Alain Bachung et Raphaël Rousseau est aux manettes.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir Grégory Darbadi.
Bonsoir madame.
Le vin de... Ouh là là, il est sérieux le garçon, il m'appelle madame. Le vin de la philosophie, les promenades philosophiques de Bacchus, c'est donc le titre du livre que vous publiez aux éditions Apogée. Alors Bacchus ou Dionysos, d'ailleurs son pendant grec, Bacchus, dieu de la fécondité. Joli point de départ à une ondoyante réflexion sur le vin. Est-ce que le vin, pour vous, c'est une forme de sagesse en quelque sorte ?
Est-ce que le vin est une forme de sagesse ? En tout cas, le vin induit une forme de sagesse. La modération et une expérience qui donne sens à la modération, c'est l'expérience de l'ivresse. Évidemment, le vin ne se réduit pas à l'ivresse. On peut s'enivrer par d'autres moyens.
On peut s'enivrer de philo ?
Aussi, pourquoi pas ? En partageant des idées, notamment à leur philo. L'ivresse n'est pas une spécificité du vin. En revanche, il y a quelque chose qui constitue la singularité du vin, c'est sa réalité sensible, son rapport au terroir, son rapport aussi aux cieux, au ciel. Alors, aux cieux, évidemment, ce sont les dieux qui bénissent le vin. Le vin qui s'est substitué par les libations au sang des sacrifiés aux dieux.
Dans la religion catholique, il y a toujours du vin de messe. Hein.
Tout à fait. Et donc il y a un rapport aux cieux ou au ciel, au moins, et puis un rapport très étroit aussi à la terre dans laquelle les racines des cèpes vont plonger très profond entre le sable et les pierres pour tirer tout le suc qui va nourrir le grain de raisin, le grain de raisin qui va être nourri aussi par la feuille qui va faire refluer vers le grain le sucre qu'elle va apporter grâce à la photosynthèse, etc. Et donc il y a une espèce d'univers du vin qui donne à penser. Qui donne à penser et donne à partager aussi en société. Qui donne à penser. Et c'était le point de départ du livre. Je me suis demandé si il était possible de se contenter d'une réflexion générale, d'une recension des écrits des grands philosophes sur le vin.
Ouais, c'est pas ça que vous avez fait.
Non, justement. J'ai essayé de trouver un intérêt à une réflexion sur le vin. Et j'ai beaucoup lu. Avant que le problème ne surgisse. Et le problème, c'est le titre du livre, c'est le vin de la philosophie. Est-ce que le vin de la philosophie est véritablement du vin, une réalité sensible, charnelle, organique, que nous buvons, ou est-ce que c'est autre chose, quelque chose qui serait de l'ordre de l'idée ? Le vin serait une manière de s'initier à une spiritualité par l'ivresse, une ivresse contenue, bornée dans les limites de ce que la raison peut accepter. Ce serait aussi un point de départ vers une réflexion qui s'éloignerait de la réalité sensible du vin. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était précisément me tenir dans les limites de la réalité sensible du vin et me demander si c'était possible d'avoir une pensée organique, charnelle, en philosophie, sur le vin. Et j'ai trouvé des philosophes qui m'ont permis justement d'avancer les éléments d'une pensée organique.
Vous en avez trouvé plein.
Oui.
Dans le chapitre que j'ai appelé « Table », je fais une sorte de résumé de tous les banquets de notre tradition. Vous savez que la philosophie a été une philosophie des banquets, puisque Platon en a écrit un, et que d'autres philosophes en ont écrit beaucoup, comme Kierkegaard par exemple. Mais il y a aussi le banquet religieux, c'est-à-dire la scène chrétienne. Et nous sommes héritiers d'une tradition où une religion s'est formée à partir de cette scène du banquet. Et par conséquent, je crois que goûter du vin, ce n'est pas un acte simple, c'est un acte profond. C'est un acte sensoriel, C'est aussi un acte social, on le fait ensemble, et c'est aussi un acte qui a des racines très très lointaines dans le religieux et le mythique.
Vous aurez reconnu Michel Serres, hein, philosophe et historien des sciences. Alors comment ne pas évoquer effectivement le banquet de Platon notamment, lorsqu'on parle du vin de la philosophie, et la valeur sacrée du vin.
Précisément, donc le vin donne à parler et la parole doit se régler sur la raison avec le logos grec. Il s'agit pas de parler en se laissant aller à une espèce de délire de la langue. Mmh. La deuxième langue, c'est parce que Michel Serres parle de deux langues dans le livre qu'il a consacré notamment au vin et à sa région.
Oui, parce qu'il faut dire que si on a choisi de vous le faire entendre, c'est parce que vous en parlez dans votre propre livre, Grégory Zarbani.
Tout à fait. Michel Serres parle de deux langues. La langue qui savoure le vin et la langue qui parle. Et cette langue de la sapience, il y a la langue du savoir, mais de la saveur, du savoir organique, sensible. Et puis il y a une langue intelligente qui se met en place derrière cette première langue. C'est ce qu'avance Michel Serres. Et précisément, dans le banquet de Platon, il y a deux types de paroles. Il y a une parole qui part dans une espèce de folie, de mania, mais pas religieuse, pas orientée vers les dieux, mais et une parole qui s'élève et qui montre que le vin ou le banquet peut constituer une expérience philosophique au cours de laquelle la raison est mise à l'épreuve et finit par triompher non pas du fait de boire, puisque Socrate boit dans le banquet et il partage, il se plie à l'usage du banquet, donc il boit du vin, mais sa parole reste toujours orientée vers le sens du banquet, c'est-à-dire le sens du partage et le sens de la spiritualité. Et il y a une recherche de vérité qui se met en place dans le banquet.
In vino veritas.
Exactement. Et c'est la même c'est la même problématique qu'on retrouve chez Kierkegaard dans son écrit, enfin son petit livre qui s'appelle In vino veritas. Et là, Kierkegaard, qui est très ambitieux, va peut-être un peu plus loin que Platon, puisque il fait un parallèle entre l'amour de la vérité et la vérité de l'amour. Pour Kierkegaard, l'amour de la vérité, c'est ce que l'on cherche à travers le partage de l'amitié, une amitié très virile hein, dans le cadre du texte de Kierkegaard, une amitié virile partagée et une volonté aussi d'avancer vers un objectif qui est très spirituel. Et même si il y a des châteaux Margaux partagés dans le livre de Kierkegaard, même si il y a du champagne, il n'en demeure pas moins que tous les échanges sont orientés vers la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, c'est que la vérité, c'est l'amour, c'est la vérité de l'amour, c'est la vérité de l'amour du partage. Voilà. C'est la vérité, c'est la vérité de l'amour.
Mais à propos de champagne, Grégory Zarbani, vous avez été, me suis-je laissé dire, baptisé au champagne, enfin avec une goutte.
Oui.
Et ensuite, quand vous avez grandi, on vous donnait un petit peu de vin à table. Oui. Ce qui est aussi une façon pour les enfants, il n'y a qu'à voir leurs yeux qui brillent quand on leur permet d'accéder au vin. Un petit verre, un tout petit peu de vin, évidemment, il ne faut pas en donner beaucoup aux enfants, mais c'est aussi une façon de devenir adulte. Oui. Enfin, d'entrer dans un, c'est une étape, c'est un,
oui.
On leur donne une permission.
Alors, il y a la permission, puis il y a l'interdit qui va arriver.
Oui,
évidemment,
heureusement.
Après. Et donc, comme l'interdit va arriver, l'enfant va commencer à imaginer le pouvoir du vin, et il y a une réflexion qui va se mettre en place. Peut-être que c'est le début aussi d'une réflexion philosophique à la mesure d'un enfant, mais qui va imaginer, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait l'intérêt du vin chez les adultes. Et puis c'est une forme d'initiation aussi à la vie adulte, avec les deux gouttes de vin qui vont être déposées dans le verre d'eau. On va se rendre compte, on aura une espèce d'image du chemin à parcourir pour devenir adulte. Puisque le verre sera essentiellement rempli d'eau. Voilà. Et donc quand on aperçoit les adultes boire et trinquer du vin, on se rend compte du chemin à parcourir. Et on a une seule ambition, c'est de devenir un adulte vite pour pouvoir trinquer avec ces adultes et pouvoir parler. Parce que on a droit à deux gouttes de vin. vin dans un verre d'eau, mais pour maintenir le silence autour des grands qui partagent des idées auxquelles on n'a pas accès, qu'on observe et qu'on essaie de penser. Donc il y a une espèce de pensée du vin que les adultes boivent, dégustent entre eux, et puis une pensée aussi de cette facilité de la parole qui est la leur, de cet échange qui se met en place autour des verres qu'ils entrechoquent.
Le vin est une connaissance. On connaît les vignobles, on connaît les cèpes, on connaît les crus, on connaît les années. On lit des livres, on lit des guides, on va sur le vignoble, on connaît les marchands. C'est tout un monde, oui. Le vin, Jacques Chancel.
On apprend à comprendre.
Voilà. Quand on s'y met dans ce monde-là, c'est le monde aussi grand, oui. Aussi vaste que les mathématiques, que la physique, que n'importe quoi d'autre.
On ne boit pas, on goûte.
Et à ce moment-là, on se met à goûter. Et alors on s'aperçoit que le goûter est une chose si riche, si festive, si extraordinairement étonnante, qu'on finit par boire de l'eau. Et je dois avouer que toute la semaine, je bois de l'eau, et de l'eau seulement, pour pouvoir me payer le dimanche une bouteille un peu plus chère et qui me donnera précisément
du bonheur.
Cette joie. Voilà.
Délicieux, Michel Serres, au micro de Jacques Chancel, l'importance du goûter, effectivement. Et là, on voit bien que le désir est exacerbé, c'est l'attente, et puis on pense à la bouteille qu'on va choisir.
Oui, oui, et j'ai aussi le souvenir de la lecture que j'avais faite de Michel Serres, qui a gardé dans sa mémoire très très longtemps après que les vignes de sa ville aient disparu. Ouais. Il a gardé l'image. Une image qu'il décrit, hein, de ces vignes. Ce qui veut dire que il y a à la fois la représentation du vin, parce que Michel Serres sait aussi décrire les cépages, les propriétés des vins qu'il peut déguster. Mais il y a cette représentation, et il y a aussi quelque chose qui a à voir avec une espèce de pensée qui se met en place, parce que finalement il y a la dégustation dont il parle, et cette dégustation, elle dure peu de temps, elle se transforme tout de suite en souvenir, un souvenir que Michel Serres conserve dans les limites sensibles, organiques, qu'il souhaite lui assigner. Mais ce souvenir, c'est aussi le début d'une réflexion sur le vin. Et le vin de la philosophie, c'est au départ une dégustation, c'est quelque chose que l'on goûte, qui existe réellement dans une réalité sensible.
Donc une réalité
sensible.
Et après, ça devient une idée.
Et ça devient une idée.
Ouais, ouais. Et c'est aussi ce qui donne accès, finalement, bon, effectivement, à la pensée et au sensible en même temps.
Tout à fait. Et ça nous ramène sans cesse au sensible. Mmh. Ça nous ramène sans cesse au sensible, puisque on s'aperçoit très rapidement que lorsqu'on tient un discours sur le vin, qui s'abstrait des réalités organiques, sensibles, on n'est plus en rapport avec son objet. Et donc, il nous faut avoir la modestie de ramener la pensée au niveau de la réalité sensible. Et ne pas fuir dans l'idéal, dans le monde des idées, dans l'idéal du ciel platonicien. Et d'ailleurs, alors je suis un peu injuste quand je parle du monde idéal de Platon, parce que lorsqu'on lit le banquet de Platon, on voit un Socrate qui boit. Socrate boit. Il boit. Il n'est pas perdu dans celle des idées. Il n'est pas dans un délire, dans une mania, dans une folie d'un discours qui perd de vue les réalités du banquet sensible de ses amis auxquels il est convié. Michel Serres, pardon, Platon, excusez-moi, c'est le point de départ. Platon a aussi assigné au vin, à sa pensée sur le vin, une réalité, la réalité de la dégustation qu'il décrit. Qu'il décrit.
Et puis il y a les terroirs des philosophes, et alors ça, vous en parlez aussi dans votre livre. Il y a Montaigne, il y a Montesquieu, qui était d'ailleurs négociant vigneron. Ouais. Il y a Marcel Conche, cette histoire absolument merveilleuse de Conche qui s'est occupé de la vigne de son père.
Pendant la guerre.
Pendant la guerre.
Alors, Marcel Conche nous parle donc des vignes d'Altillac qui n'existent plus. Ouais. On est dans la Corrèze, au bord de la Dordogne. Marcel Conche, qui est toujours vivant, qui a 100 ans, Marcel Conche donc décrit le travail, la besogne de la vigne, la taille, les vendanges, la récolte, le travail de vinification. il n'est pas appelé pendant le début de la guerre, il n'est pas mobilisé et il doit se substituer à son père qui lui est mobilisé.
Et vous en faites une très belle évocation.
C'est-à-dire que Marcel Conche, c'est le penseur de la nature, un penseur de la totalité, et il inscrit son travail de manière très modeste. Dans la réalité d'un paysage dont il a hérité. Un paysage, c'est le paysage de son enfance, où il a continué de vivre très longtemps. Je crois qu'il a déménagé récemment. Et il est resté très attaché à ce paysage. Et ce paysage, il en participe. Il participe de ce terroir. Et Marcel Conche, c'est à la fois le penseur d'Épicure, donc de la nature, et c'est aussi Lao Tzu, c'est le penseur de la participation, de la pensée chinoise, participation au monde. Et donc, il y a quelque chose qui est profondément en accord dans la pensée de Conche, et dans la vie de Conche, à travers le rapport au vin. Il boit du vin, sans doute avec modération, aujourd'hui.
Non, il y en a d'autres, comme par exemple, je citais Montesquieu, qui était négociant vigneron. Donc Montaigne... Alors Montaigne, il coupait... C'était du vin blanc qu'il buvait ?
Oui, essentiellement.
Mais il mettait beaucoup d'eau dedans. Et plus il mettait... Enfin, il y a tout un processus, là aussi, dans la proportion entre le vin et l'eau.
Un tiers, la moitié d'eau... Et la question, je me suis posé, c'est savoir à quoi ça pouvait correspondre, ce rapport expérimental au vin, sachant qu'il est dans l'expérience de soi, etc. Et j'avance l'hypothèse que le vin qu'il buvait, coupé d'eau, mouillé d'eau, c'est la formule consacrée dans la littérature montaignienne, le vin mouillé d'eau était adéquat à son être. C'est quelque chose qui lui correspondait. Et finalement, le vin coupé d'eau est une image de Montaigne. À moitié dans la nature, mais dans la maîtrise aussi du fruit, de cette substance sensible, organique, qu'est le vin. Et donc, il me semble, c'est l'hypothèse qui m'est venue à l'esprit, que la description que Montaigne fait du vin qu'il mouille, correspond à une recherche de soi, une recherche de sa propre saveur. Et il y a quelque chose de l'ordre de la ressemblance entre le vin mouillé que boit Montaigne et la réalité de sa vie.
Voilà. L'eau et le vin, c'était il y a 20 ans, Alain Bachung sur France Inter.
L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La mer qui me revient, je veux l'eau des marins. Au chagrin et les vins d'en rajouter, trop de tanins me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter, il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La terre et le venin, je veux l'eau des matins, aussi beau que le pain. Le vin qui me parle et l'eau qui ne dit rien. Poisson dans l'un, poison dans l'autre. L'eau et le vin. Au chagrin il est vain d'en rajouter. Trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains. L'eau. Poisson dans l'un, poison dans l'autre, l'eau et le vin. Au chagrin et les vins d'en rajouter. Trop de tanins me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin. Il est vain. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. Il est vain d'en rajouter.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Les vins de Bar-sur-Aube approchent de bien près en couleur, saveur et bonté au vin de l'Anjou. Ils sont clairés et fauvelets, subtils, délicats, friands et d'un goût fort agréable au palais, approchant à la framboise. Que de fois ainsi la vigne, reine des simples, prend le parfum d'une de ses douces suivantes comme la framboise, d'une de ses rudes servantes comme la pierre à fusil. Le vin est vraiment un universel qui sait se rendre singulier, s'il trouve toutefois un philosophe qui sache le boire. Gaston Bachelard, La terre et les rêveries du repos.
Merveilleux texte hein, de Bachelard, à l'humeur tranquille, qui se plaisait dans sa campagne, écrivez-vous, Grégory Darbadie, qui a saisi la puissance de la vigne, d'ailleurs, grâce à un ami.
Oui, Gaston Roupnel, qui était à la fois historien à l'université de Dijon.
Et vigneron.
Et vigneron, voilà.
Gevrey-Chambertin.
Eh oui.
On fait pire.
Non, exactement. Bachelard a des goûts plus modestes. Il aime le vin des côtes de Bar. Et donc, il vient de Bar-sur-Aube, hein. C'est un bar albin. Et Bachelard a très vite décrit cette espèce de méditation alchimique. Auquel il se livre avec sa fille Suzanne lorsqu'il parcourt les sentiers qu'il empruntait autrefois avec sa femme qui a disparu donc très tôt
ouais. Au bout d'un an de mariage ouais,
exactement un drame et donc il y a quelque chose de très triste dans les promenades qui sont décrites et donc cette tristesse est sublimée dans un rêve et une poésie alchimique où Bachelard voit converger l'eau de la terre jusqu'au ciel des coteaux de sa région.
Mais il a beaucoup observé ces des vignerons qu'il a pu voir. Il les a longuement observés.
Tout à fait. Il les observait grâce à Gaston Roupnel dans l'histoire aussi. Puisque l'extrait que vous avez lu, c'est un extrait en fait d'un texte de Nicolas Abraham qui date de 1608. Et donc Bachelard est très attentif aussi à cette poésie qui est inscrite dans la réalité de son territoire.
Poésie qui amène aussi à l'imagination, oui. Parce qu'il y a aussi toute cette partie-là.
Et une poésie donc qui est intemporelle. L'histoire, la lecture de Bachelard, de Rupnel, la lecture qu'il fait de Rupnel, c'est une lecture qui l'amène à retrouver quelque chose de l'ordre de l'essence d'un territoire, d'une poésie qui est restée en l'état, qui était immuable. Et cette poésie inscrite dans les paysages qu'il décrit lui permet aussi de définir la vigne comme personne ne l'a fait.
Le vin et la vigne des alchimistes, hein, parce que là, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il faut lire ça de Bachelard, non ?
Tout à fait. Et le vin l'or des alchimistes. Alors pourquoi ? Parce que la nature a une espèce de cheminement parallèle au cheminement des alchimistes. Peut-être que les alchimistes ont été inspirés par le travail que fait la nature dans les vignes, transformant des territoires toujours hostiles, parce que les coteaux sur lesquels on fait pousser des vignes sont des coteaux sur lesquels on ne peut pas cultiver d'autres récoltes. Donc on est obligé de faire un usage in extremis ces territoires qui sont abandonnés dans un premier temps. On y fait pousser des vignes grâce à une culture ancestrale, mais on y fait pousser des vignes et ces territoires hostiles à l'agriculture deviennent une source de richesse pour les habitants de la Côte de Bar, mais qui sont aussi une source de richesse pour le royaume de France. Comme on parle, comme le décrit François Quesnay.
Oui, François Quesnay, qui est quelqu'un, effectivement, dont vous parlez, que moi, je ne connaissais pas.
Hein. Ouais. Ah, c'est le père de l'économie, de la science économique.
J'en apprends des choses. On en apprend des choses.
Avec, évidemment, une limite, c'est que François Quesnay était dans un royaume où la richesse était essentiellement...
Il travaillait auprès de la marquise de Pompadour, c'est ça ?
Tout à fait, c'était le médecin.
C'était son médecin, voilà. C'est ça.
Alors, évidemment, il y a le Colbert, le commerce, etc. Okay. Mais Quesnay avait cette réalité, il était médecin et il devient économiste... penseur de l'économie, Quesnay a cette idée que l'économie ne peut se comprendre que dans les limites de la nature, de ce qui existe réellement. C'est le médecin qui renvoie la réalité humaine à un corps. La réalité des richesses produites par le royaume, elle doit être ramenée à une terre. Hein, physocrate, c'est le pouvoir de la terre de créer des richesses, et non pas le commerce, comme y invite Colbert, qui veut échanger, faire de l'argent avec des marchandises et puis faire de l'argent avec de l'argent, etc. Il y a une pensée de Quesnay qui vise à inscrire la réalité humaine dans une terre. Et d'ailleurs, il fait le commentaire, je sors peut-être un peu du
non,
point de départ,
mais
il fait d'ailleurs le commentaire suivant, c'est que la vigne constitue l'activité agricole la plus productive, la plus riche. Il faut beaucoup de mains pour les vendanges, la taille occupe peu de temps dans l'année, ouais. et laisse donc la main-d'œuvre mobilisée pour les vendanges ou la vinification disponible une grande partie du temps pour l'agriculture. Donc c'est tout bénéfice pour le royaume de France.
Est-ce que le vin rend heureux ? Ça, c'est une question que se pose notamment Diderot, à laquelle il répond en partie.
Oui. Est-ce que le vin rend heureux ? C'est une vraie question. J'ai l'impression que le vin nous donne une image du bonheur, nous donne un accès au partage de l'amitié. Il faut boire toujours avec des amis, hein, faut pas boire seul. Il faut parler aussi lorsqu'on partage des verres. On peut décrire ce qu'on boit, mais on peut parler aussi du bonheur de se retrouver autour du vin. Le vin, c'est un vecteur d'unité, de rassemblement.
Et de prise de conscience aussi de ce que nous sommes, parce que là aussi vous citez Merleau-Ponty qui a pensé que nous sommes une substance poreuse et éphémère, et que le vin nous amène à cette pensée-là.
Ouais. Une pensée de la modestie. Alors pas simplement de la modération, mais de la modestie. On prend conscience que...
Parce que la vigne est fragile, d'où la
vigne est fragile et la maîtrise que l'on tente d'avoir sur le vin lorsqu'on le déguste est aussi très fragile. Le vin a un pouvoir invasif. Et finit par triompher de toutes les molécules de notre organisme, puisque les molécules d'éthanol sont beaucoup plus fines que toutes nos molécules. Donc on ne peut pas résister au pouvoir invasif du vin et à l'ivresse. Et donc on est obligé, c'est une leçon de modestie. C'est-à-dire que on a pu peut-être arracher à la nature du vin qu'on a fabriqué, mais ce pouvoir-là, il est tout à fait limité. Il nous ramène à un monde dans lequel on participe et un monde dans lequel auquel l'ivresse nous rattache.
Éric Marty au sujet de Roland Barthes.
Pour Barthes, le vin, c'est le Bordeaux. Or, le Bordeaux, en effet, c'est un vin assez proche de l'aliment, enfin, beaucoup plus que le Bourgogne ou que les vins de Provence. C'est un vin souvent assez épais, plus épais, qui a une consistance. Là, il y a un élément très fort qui distingue Barthes, disons, de Baudelaire, mais pas seulement. C'est, disons, que pour Barthes, le plaisir ne peut pas être un plaisir violent. Il est l'homme de la jouissance modérée. Et donc le vin ne peut pas être chez lui une drogue, comme elle l'est pour Baudelaire. Alors ça c'est quand même important, parce que donc on voit que Barthes a une vision à la fois du plaisir comme dérive, comme perversion, comme mobilisation de tous les sens, comme complexité et dérive, mais en même temps, Barthes est dans une sorte de rapport de maîtrise malgré tout.
Alors, il y a les partisans du Bourgogne, les partisans du Bordeaux, bon, ça, on va revenir sur cette polémique, mais un grand vin, quoi qu'il en soit, c'est un vin qui laisse l'avenir ouvert.
Exactement. C'est la leçon que j'ai tirée dans le conte philosophique que j'ai proposé en fin du livre.
Ah ben, on va en parler. Mega Vino Santo, vous allez nous en parler, parce que c'est effectivement un conte que vous avez inventé. C'est un homme qui s'interroge sur les origines de son nom.
Voilà. Je me suis inspiré évidemment de Micromégas de Voltaire. Mais j'imagine un héritier de Micromégas. Curieux de découvrir que le nom qui est le sien est celui d'un vin, enfin signifie un vin saint, et il aimerait savoir à quoi ça correspond et pourquoi on attache autant de prix, autant de valeur au vin sur Sirius, sachant
c'est que... Parce qu'il vient de Sirius.
Alors, lui, c'est un habitant de Sirius, et Micromégas a fait un détour par la Terre, et apparemment, Voltaire n'en parle
gros
pas.
Gros détour, hein, quand même.
Voilà.
C'est loin, Sirius.
Tout à fait. Mais apparemment, Voltaire n'en parle pas, mais Micromégas aurait rapporté du Vino Santo, et Mega Vino Santo voudrait savoir à quoi ça correspond.
Et donc, il va poser la question à un certain nombre de philosophes.
Exactement. Il commence avec Aristote. Mmh. Il se trompe. D'ailleurs, il ne cesse de se tromper, Mega Vino Santo. Il fait une première erreur. Il pense que le mot Vino Santo est plutôt un mot grec. Et donc, il se rend en Grèce. Alors que Aristote va plutôt le mettre sur la voie de la botte italienne, qui n'est pas encore l'Italie. Il va se tromper de direction et il va errer dans l'histoire de la pensée jusqu'à la dernière hypothèse, la dernière rencontre, c'est celle de Hans Jonas, qui est quelqu'un de très responsable, principe responsabilité, mais très très sérieux, et qui l'invite à considérer que le rapport au vin, ce n'est pas le rapport à une bonne bouteille qu'on a l'habitude de boire, mais rapport à quelque chose d'ouvert, quelque chose de responsable. C'est une espèce de viticulture responsable, de vin naturel, biologique avant l'heure, et il faut laisser les générations futures fabriquer leur propre vin, le vin qui leur correspondrait.
C'est plein d'inventions ce que vous faites, je veux dire, on s'amuse beaucoup, même avec Anna Arendt par exemple, la discussion n'est pas triste parce que d'ailleurs il trinque au Pomerol. La rencontre de Kant est absolument géniale, parce que d'abord évidemment Kant est tout à fait gêné par ce garçon qui vient lui poser des questions. Il est en train de faire sa promenade, il n'a pas l'intention de se laisser déranger. Et alors lui, Kant, il place assez haut la valeur du vin. Hein.
Tout à fait.
Il dit que se demander ce qu'est le vin, ça revient à s'interroger sur la conception qu'on défend de l'humanité. Pas rien.
Alors j'ai prêté cette pensée à Kant.
Oui, mais bon.
Oui, parce que...
On ne traite qu'aux riches, hein.
C'est une question qui renvoie d'ailleurs à des développements dans l'anthropologie, donc dans l'étude de l'homme. Quand ces forces de penser la condition humaine avant l'heure, avant que Hannah Arendt ait défini de manière très très claire la condition humaine, lui définit des éléments de la condition humaine de manière pragmatique en s'en tenant aux choses et il a l'intuition que le vin prête à rire, mais qu'il est particulièrement significatif de quelque chose qui se joue dans les rapports humains, concrets, simples, factuels.
Et qui peut parfois aussi, par exemple, si on prend le point de vue de Karl Marx, lui, il pense que c'est au contraire, enfin, que c'est le symbole d'une exploitation sociale, parce qu'il pense évidemment à la misère de certains agriculteurs. Sa famille, d'ailleurs, possédait des vignobles et il veut cesser de faire ce qu'on fait un peu ce soir, c'est-à-dire de fétichiser le vin.
Oui. J'ai retrouvé des articles de Marx publiés dans la Gazette Rhénane, puisque Marx était un journaliste au départ, de 1843 ou 49, où il décrit la crise des viticulteurs de Mosellan, d'Allemagne, et il remarque un phénomène un peu curieux. Alors, il est très observateur, très attentif aux échanges commerciaux de son époque, et il note l'écart qui existe entre la récolte extraordinaire 1843 et la misère dans laquelle va plonger la population mosellane et les viticulteurs mosellans.
Alors je voudrais qu'on écoute ensemble, Grégory Darbadie, un petit bijou. Il s'agit d'un extrait de Synergie de Jean Lucas. C'était en 1993, Jean Carmet et Gérard Depardieu.
Un chai qui bouillonne, c'est absolument fou. Hein. C'est un espèce de cerveau. On sent. Il y a des odeurs émouvantes. Je me souviens quand j'étais gosse, moi, à Bourgueil, hein, où les gens vinifiaient dans des cuves en bois. Hein, oui. Ils vinifiaient là-dedans. C'était extraordinaire. Il y avait une odeur qui s'emparait du pays. Hein, l'odeur, ça sentait le vin, le bouillonnement du vin. La magie, elle est dans ce bouillonnement des cuves qui, tout d'un coup, hein, c'est un bruit infernal, le bouillonnement des cuves. C'est-à-dire, on mettrait des micros au-dessus du bouillonnement des cuves, on entendrait la terre battre. Hein. Mmh. C'est le fond de la terre, c'est tout ce qui bat. Hein. C'est extravagant ce qui peut se passer.
C'est ça qui vous plaît à tous les deux dans
Mais
le
c'est
vin,
tout ce qui entoure aussi le vin. C'est aussi le verbe, c'est aussi ce que ça engendre, c'est aussi le mystère, c'est aussi la magie.
Il y a des gens qui disent qu'ils vont très très loin, c'est que dans le fond, enfin, Baudelaire l'a dit, l'homme du vin s'entraîne dans les bouteilles, et ça existe. Moi, je connais des gens qui prétendent que certaines bouteilles ne s'ouvrent pas, ne s'offrent pas, après avoir été débouchées, quoi, par l'homme, mais ne s'offrent pas à la dégustation s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui lui semble antipathique. Et ça, il est possible que le vin soit quelquefois très susceptible et contrariable.
Alors moi, je peux pas goûter quand il y a un con dans le chef.
Oui, c'est ça.
T'as vu,
c'est ça les contre. Non, puis tout d'un coup, c'est pas nous qui changeons, c'est le vin, ça c'est sûr. Quoi. Moi, j'ai un truc, en tout cas, pour le vin. Hein. Pour le vin, c'est un truc, je sais pas, hein, je bois un coup de vin, je subis le nez, je subis la bouche, je subis la gorge, et puis après, j'attends leur tour. Hein. Et quand leur tour est clair, c'est-à-dire que quand ça a l'air d'une petite eau...
J'y suis, là, hein, précisément.
Non, mais quand leur tour est clair, c'est-à-dire que quand ça a l'air d'une petite eau qui transporte l'essence du vin,
mais
quand
t'as
un bon goût... Non, mais toi, quand t'as une bonne salive, une salive bien fraîche, une salive de ruisseau, hein, eh ben, de ruisseau à cresson, une belle salive, hein, comme ça, hein, à partir de ce moment-là, tu bois un bon vin. Mais dès que si ça te fout une salive épaisse ou n'importe quoi, c'est que c'est de la saloperie.
C'est bourré de saloperie.
J'ai appris plein de trucs, parce que le mal de tête du lendemain, j'ai déjà
connu. Vous connaissez, oui.
Oui, je connais. Hein. Je ne veux pas être tout seul, quand même, non. On fait des erreurs.
Pas avec les nôtres. Non. Moi, c'est vrai.
Non.
L'autre fois, on a essayé de s'entraîner. On a bu combien? 24 bouteilles. 12 litres chacun. Là, comme ça, pour essayer de voir où ça allait nous mener. Ben, le lendemain, on était prêts à retourner à la cuve. Hein.
Bon, 24 bouteilles à deux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, hein, Grégory Darbadie. Mais c'est délicieux de les entendre, non? C'est formidable.
Alors,
quel échange.
Alors je découvre ce que dit Jean Carmet, ouais. Et j'ai évidemment à l'esprit Rabelais qui parle de la grande marmite de Bourgueil dans le Quinte Livre. Donc lorsque Pantagruel et Panurge arrivent auprès de Babuc la prophétesse de Bacchus. Il se retrouve donc devant une grande marmite et la dive bouteille va apparaître, et c'est ce qu'est en train de décrire ici Carmé. Et la dive bouteille apparaît et pousse un cri, trinque, qui signifie à la fois évidemment entrechoquons les verres, partageons ensemble le vin de l'amitié et buvons. Parce que trinquer, c'est aussi trinken et boire.
Merci beaucoup, Grégory Tarbadi. On a passé un délicieux moment. Votre compagnie, Le vin de la philosophie, les promenades philosophiques de Bacchus, c'est publié aux éditions Apogée. Je vous assure que vous allez prendre aussi beaucoup de plaisir à lire ce livre.